Bonjour, bon dimanche. J'espère que vous allez bien, ça va? Oui, c'est bien. Nous sommes contents parce que enfin notre frère Inoussa Savalogo a eu son visa. Et donc dimanche prochain, il sera avec nous. Et c'est pour ceux qui connaissent pas, Inoussa Savalogo, c'est le frère, un des nombreux frères de Nicolas. Et vous connaissez tous Nicolas. Et voilà, il m'a beaucoup aidé là-bas, en Afrique, en me conduisant, en remplaçant Nicolas de temps en temps pour les prédications. C'est vraiment un homme de foi que j'aime beaucoup. Et voilà, je me suis dit que ça serait bien qu'on l'invite. Il n'a jamais pris l'avion, alors il m'a dit, je ne vais pas dormir jusqu'au jour où je suis dans l'avion. Ça, c'est vrai que c'est un moment terrible pour quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion. Surtout, voilà. En ce moment, il y a des informations. Air France, il y avait un problème. C'est toujours comme ça quand quelqu'un prend l'avion. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va prendre les Écritures. J'ai reçu pas mal d'avis au sujet des dernières prédications que j'ai faites, au sujet donc du salut par la grâce, et ça m'a encouragé à continuer à chercher et à vous démontrer que le salut c'est vraiment une grâce. Bonjour, bonjour, ça va? Et rien d'autre. Donc ce matin on va prendre un texte que les chrétiens pas très éclairés et puis les pasteurs bricoleurs emploient pour dire que un chrétien peut perdre son salut et aller griller en enfer. Comme Jésus est gentil, n'est-ce pas? Il envoie ses enfants en enfer. Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Jean 15, voilà. C'est Jésus qui parle et dit, « Je suis le vrai cep. » Et mon père est le vigneron. Alors nous, on vit en plein dans la vigne. On sait ce que c'est un cep. On sait ce que c'est un sarment. Si vous ne savez pas, vous allez sur un dictionnaire et vous regardez. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit en vous, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Vous voyez que c'est vrai qu'à première vue, si on dit ça comme ça, sans réfléchir et sans voir tout le contexte, biblique, eh bien, on peut se dire, bon, ben, je porte pas de fruits, je vais aller en enfer. Voilà. Ce texte fait trembler beaucoup, beaucoup de monde. Combien de chrétiens croient qu'ils peuvent être en Christ pendant un temps et puis finalement être jetés dehors et brûlés au feu? Parce que c'est ce qui est écrit, hein. Jetés au feu, c'est ce qui est écrit. Alors je vous dis, presque tous les chrétiens croient ça. Presque tous les chrétiens. Maintenant, je voudrais vous faire une autre lecture. Je ne la fais même pas parce que je la connais par cœur. C'est Jean 3, 16. On va le dire ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon. Est-ce qu'il est question de porter du fruit dans ce texte? Non. Croire en Jésus et vous aurez la vie éternelle. Point. Lisons dans le même évangile, au chapitre 11. Celui-là, je ne le connais pas vraiment par cœur. Donc, je vous le lis. Jean 11, 26. C'est Jésus qui parle. Jésus, au verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Il lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Bon. » Est-ce qu'il est question de croire et de porter du fruit dans ce verset? Non, pas du tout. Il n'est pas question du tout de cela. On va lire toujours dans le même évangile. Jean chapitre 10, verset 27-28, voilà ce qu'il dit. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Qui peut ravir les brebis qui sont dans la main de Jésus? Personne, même pas moi. Même moi, je ne peux pas en sortir. J'ai pas envie du tout d'en sortir. Aucun chrétien sauvé n'a envie de s'échapper de la main de Jésus. Quelle est la condition pour être saint, pour être sauvé? Croire, c'est ce que ces textes disent. On va dire toujours dans le même évangile, chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Est-ce qu'il est question de faire des œuvres pour avoir la vie éternelle? Non! C'est celui qui croit en moi qui a la vie éternelle. Jean 6, toujours 37-39, il est dit là, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que vous pouvez aller contre la volonté de Dieu et être perdu? La volonté de Dieu est que si vous venez à lui et que vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas croire et puis penser que si vous ne portez pas du fruit, vous allez être jeté au feu. Pourtant, Jésus dit ça, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Parce que ceux qui prêchent qu'on peut aller en enfer si on ne porte pas du fruit, c'est-à-dire que si on n'obéit pas aux commandements, si on fait pas, et si on n'a pas d'amour, etc., etc., ceux qui disent ça sont des bricoleurs de Dieu. Pardon! Mais quand même, les écoles de théologie, c'est pas fait pour les chiens. Quand je dis chien, je veux pas dire goy, hein. C'est aussi bon pour les juifs. D'ailleurs, il y a certains juifs que je connais qui feraient bien d'y aller à l'école biblique plutôt que de raconter des âneries sur YouTube qui font peur aux gens. Il veut que vous croyiez, il veut que vous croyiez en son Fils, à son œuvre à la croix, et si vous y croyez, vous êtes sauvés. Alors, pourquoi est-ce que vous croyez que vous devez faire des bonnes œuvres en plus pour être sauvé? Moi, je trouve que c'est un faux évangile. C'est quelque chose qui a été inventé par des bricoleurs qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Et je vais vous démontrer ce que signifie « Si vous ne portez pas du fruit, vous serez jeté dehors et vous sécherez, vous serez mis au feu. » Je vais vous montrer ça. Que ça ne parle pas de l'enfer. Ça ne parle pas de votre salut. C'est autre chose. Bon. Nous ne sommes pas appelés à faire des mauvaises œuvres, ça c'est certain, mais nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres, des choses bien, d'accord. Mais rappelez-vous le texte que je vous ai dit l'autre jour, même si tu fais rien, mais que tu as la foi, que tu crois en Jésus-Christ, ça t'est compté à justice. Même si tu fais rien, mais c'est impossible de rien faire de bien, il n'y a personne qui a rien fait de bien. Il ne faut pas charrier. Quand vous lisez Jean chapitre 15, superficiellement, on dirait qu'on peut perdre son salut. Mais ce n'est pas un texte, ce n'est pas une parabole qui explique comment être sauvé. perdre son salut. Et Jésus dit en plus, voilà, je vous mens, c'est possible de perdre votre salut, et je vous dis ça pour que votre joie soit parfaite. Mais c'est un vicelard. Je vous dis que si vous ne portez pas du fruit, eh ben, vous irez en enfer. Je vous dis ça pour que votre joie soit parfaite. Non, mais ça ne va pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris, ces pauvres gens qui pensent qu'il faut faire des œuvres pour être sauvés. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce qu'il se contredit? Ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas bien compris? Moi, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la Bible, je me mets en question moi-même, je ne mets pas en question la parole de Dieu. Il faut avoir cette humilité de se remettre en question soi-même en disant « mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris » parce que ce texte-là de Jean chapitre 15, c'est le sarment, contredit tous les autres textes qui disent clairement que, et il y en a plusieurs, que c'est par la grâce qu'on est sauvé, que c'est un cadeau, que c'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alors, si ça semble contredire, c'est que moi je comprends pas quelque chose, c'est pas que Jésus se contredit, jamais, 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 jamais. Alors je dis fermement que Jésus ne se contredit pas, et qu'il est possible que vous ayez mal compris. Que vous avez écouté votre chair qui veut absolument faire des bonnes œuvres parce que elle veut paraître bien devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, et que vous en tirez de l'orgueil, ou alors c'est le diable qui vous dit, il faut que tu fasses des bonnes œuvres, t'en as pas fait assez, sur la balance tu pèses pas lourd. Enfin, vous êtes victime d'une erreur. Il y a quelque chose qui joue pas. Que veut dire Jésus? De quoi parle Jésus dans Jean chapitre 15 au sujet de cette parabole du sarment, des cèpes et des sarments? Il ne parle pas du salut, pas du tout, absolument pas du tout. Il nous parle de la relation entre le cep et les sarments. Au verset 3, il dit que nous sommes déjà purs à cause de la parole qu'il nous a annoncée et que nous avons cru. Quelle parole? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'avait pas encore passé à la croix, hein. Mais il disait déjà ça. Et que c'est Dieu a envoyé son Fils et que la véritable œuvre selon Dieu, c'est sa volonté, c'est que nous soyons sauvés en croyant en son Fils. Déjà vous êtes purs parce que vous avez reçu cette parole. Déjà vous êtes purs parce que vous avez cru cette parole. C'est fait, vous êtes purs. Il dit ça au verset 3. Et il dit, demeurez en moi maintenant. Restez attachés au cep. Sinon, ben vous ne porterez pas de fruits. C'est normal. Puisque la sève monte dans les sarments, si elle est attachée au cep. Si vous connaissez rien à la vigne, c'est bien dommage. Le cep, c'est ce qui est planté dans la terre, qui prend la vie là-dedans, et puis ensuite, la sève, elle passe dans les sarments, et puis si les sarments deviennent fous et trop longs, on les coupe, pour que la sève ne se perde pas complètement dans les sarments, mais qu'au contraire, elle aille se mettre dans les fruits, pour que ça porte plus de fruits, on les monde. D'accord? Alors il y a des gens qui pensent, le diable m'attaque. Mais non, c'est simplement Dieu qui t'émonde pour que tu portes plus de fruits. Ça fait mal d'être émondé, mais c'est Dieu qui fait ça, pour que tu portes plus de fruits. C'est bien, tu es attaché, et tu commences à porter du fruit, et Dieu t'émonde pour que tu portes plus de fruits. Bon, mais si vous ne portez pas de bons fruits, ça n'est pas agréable à Dieu. Ça c'est certain. Et la relation commence à se pourrir entre toi et Dieu. La vie ne passe plus du cep jusque dans les sarments. Il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est coupé. Alors il nous exhorte à demeurer attaché au cep. Et il nous dit comment faire pour être attaché au cep. Ben, il faut faire la volonté de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, c'est le premier commandement. Il le dit. Il le dit. D'accord? Mais ça n'est pas une question du salut, c'est une question d'avoir une bonne relation avec Dieu et avec les frères et sœurs. Et si tu n'as pas une bonne relation avec les frères et sœurs pour qui Jésus-Christ est mort, eh ben tu n'as pas une bonne relation avec Dieu non plus. Alors viens pas t'étonner que tu prends des... Il te chicote, il te punit, c'est normal. Parce qu'il punit tous ceux qu'il aime. Il nous exhorte donc à demeurer attachés au cep et ses paroles et que ses paroles demeurent en nous. Sinon, il dit, vous pouvez rien faire, c'est-à-dire vous pouvez pas porter du fruit. Vous pouvez faire des tas de choses, vous pouvez aller aux toilettes. Excusez-moi de dire ça, mais c'est pour vous choquer un peu. Vous pouvez faire des tas de choses, vous pouvez faire la bouillabaisse, vous pouvez faire le cassoulet, mais vous pouvez rien faire qui demeurera une œuvre qui puisse être récompensée lors du jugement des bonnes œuvres. Vous n'aurez pas de fruits qui porteront gloire à Dieu. C'est normal, toutes les femmes mariées font à manger à leur mari. Même si ça ne plaît pas à certaines, que ce soit les femmes, tant pis, c'est comme ça dans le monde entier. Ben, ça y est, on va encore dire que je suis macho. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les païens font aussi bien que les chrétiens des tas de choses bien. Pourquoi Jésus dit qu'on peut rien faire? On peut rien faire qui plaît à Dieu si on n'est pas attaché à Dieu et qu'on fait pas ses commandements. C'est quand même pas compliqué à comprendre. D'accord? On peut rien faire. Verset 5 et verset 7. Si on porte du fruit, par contre, il promet de nous exaucer. Ah, ça veut dire que si on ne porte pas de fruits, il ne nous exauce pas. Hein? Et puis, si on porte du fruit, alors il nous exauce. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de relation. Par exemple, tu es le fiston de ton papa, tu fais une bêtise. Tu t'attends que ton papa va te donner tout ce que tu demandes. Non, il va te punir, il va te couper les vivres. Pour un moment. Hein? Si on vit notre vie comme on veut, qu'on insulte les serviteurs de Dieu, qu'on ne persévère pas dans la communion fraternelle, mais que le dimanche on reste au lit à faire la sieste, qu'on ne prenne pas le pain et le vin, le corps de Christ et le sang de Christ sont une véritable nourriture. Ceux qui ne le prennent pas, ne prennent pas de véritable nourriture. Ils ne sont pas nourris. La vie n'est pas en eux. C'est ce que Jésus dit. Vous ne prenez pas la Sainte Cène. La vie n'est pas en vous. C'est la sève qui passe plus. Parce que vous ne voulez pas fréquenter les chrétiens. Parce que vous les trouvez tous désagréables. Il n'y a pas d'amour dans les églises. Bon, ben voilà. Ne pas vous étonner après. Si vous faites comme vous voulez, bref, si on n'est pas en Christ, pratiquant sa parole, persévérant dans la communion fraternelle et toutes ces choses, eh bien, on ne demeure pas dans une relation d'amour avec le Père. Verset 10. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas les frères. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Alors, si vous mourrez dans cet état-là, vous serez jeté dehors, comme un sarment qui ne porte rien, et vous sécherez. Et puis, d'ailleurs, vous commencez déjà à sécher ici avant de mourir. Hein. Les chrétiens qui sont coupés, ils sèchent déjà maintenant. Ils sont secs, ils sont désagréables, etc., etc. Et vous finirez par être ramassés pour être brûlés. Ah, tu vois, Michel, tu vois, là, tu le dis. C'est possible d'avoir été attaché et puis d'être détaché et d'aller en enfer. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. On ne peut pas perdre son salut et aller brûler en enfer, c'est faux. Si une fois tu as été sauvé, si une fois tu as cru que Jésus-Christ est ton sauveur et que tu n'es sauvé que par la grâce et non pas par tes œuvres, Dieu te déclare saint et il ne te déclare pas saint juste pour quelque temps. Ce que Jésus dit là, c'est pour l'éternité, la vie éternelle tu reçois. Ce que Jésus dit là n'a rien à voir avec l'enfer. Je vais vous lire maintenant un texte dans 1 Corinthiens 3, 9, 15. 1 Corinthiens 3, 9, 15. Écoutez bien. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez, l'apôtre Paul dit « Je suis un sage architecte ». Si c'était Michel Jonton qui disait « J'ai posé le fondement comme un sage architecte chez tous ceux les dissidents là-haut », il dirait « Vous voyez comme il est plein d'orgueil, par contre si c'est Paul qui dit, ça passe ». Paul, il n'avait pas le nez au milieu de la figure comme moi, il avait... Non, lui, il avait une auréole. Moi, j'ai pas une auréole. Voyez, donc selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. C'est-à-dire qu'il y a un pasteur qui s'est chargé après de construire et tout. Et puis ensuite il dit, mais que chacun de vous, prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Si tu vas écouter un pasteur qui te dit que tu peux être perdu alors que parce que tu ne fais pas d'œuvre, ben là tu construis avec des mauvais éléments. Et si tu te construis, si tu construis ta vie avec des mauvais éléments, ben que veux-tu que je te dise? Voilà ce qu'il dit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le fondement. Jésus-Christ est le sauveur. Si tu crois ça, tu es sauvé. Tu es sur le bon fondement. Maintenant, comment tu vas construire? Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de la grâce en Jésus-Christ, s'il construit sa vie avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, le jour du Seigneur, parce que elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Est-ce que c'est clair? Mon Dieu, il suffit d'aller 2 mois dans une école biblique pour comprendre ça. C'est une des premières choses qu'on nous enseigne. Évidemment, moi j'ai pas besoin d'aller à l'école biblique, le Saint-Esprit m'inspire, oui t'inspires quoi? Les anges me parlent, ah ouais, te disent quoi? Les orbes me disent, ah ouais. Vous voyez, un chrétien est un ouvrier avec Dieu, pas un bricoleur, hein, un ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire qu'il travaille avec Dieu, il travaille en relation avec Dieu. Comme sont le cep et le sarment, en relation. Vous voyez? Paul dit que vous êtes l'édifice de Dieu. C'est lui qui vous construit, parce que la sève passe par le cep, par Jésus, pour vous construire, pour vous fortifier, pour vous faire porter du fruit. Paul dit, c'est moi qui ai posé le fondement, qui est le salut par la grâce, sans les œuvres. C'est moi, Michel Janton, qui ai posé le fondement dans vos vies et dans la vie des dissidents qui sont là-bas et qui disent que je suis diabolique. Ding, ding, ding. Ta, ta, yo, yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ding, 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 ding. Et maintenant il dit, l'apôtre Paul, mais, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur son fondement. Comment construis-tu ta vie? Avec des bons matériaux comme de l'or? Je ne dis pas qu'il faut... C'est un symbole, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu me donnes de l'or, j'espère que tu as compris. Ou avec des matériaux grossiers et inflammables comme du chaume? Là, Paul, il parle des œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu bâtis ta vie? Comment tu construis? Il parle des œuvres. Qui est-ce qui fait les œuvres? C'est toi. Moi, je ne fais pas tes œuvres. C'est toi qui fais tes œuvres. Et chacun est responsable pour ses œuvres. C'est notre être, c'est notre moi, c'est notre âme qui fait les œuvres. Avec nos mains, avec nos pieds, avec nos regards, nos sourires, avec notre sale langue. Avec Internet, insultant les serviteurs de Dieu, que Dieu exauce en faisant des miracles, et toi tu te permets, poufias, de venir critiquer et juger et condamner un serviteur de Dieu, mais honte à toi, tu devrais te repentir, aller sur tes grands genoux et demander pardon à Dieu. Mais quelle honte! Moi j'aurais peur à sa place. Comprenne qui pourra. Fais-tu des œuvres pleines de foi? Alors, si tu fais des œuvres pleines de foi, tu construis avec des pierres précieuses. Le symbole des pierres précieuses, le symbole de la foi, c'est des pierres précieuses. Fais-tu des œuvres avec de l'espérance, tu construis avec de l'argent. C'est-à-dire que ta construction a de la valeur. L'argent étant un symbole, c'est pas le pognon. C'est le matériau, les œuvres que tu fais qui ont une valeur d'argent. Construis-tu ta vie avec des œuvres pleines d'amour? Là, je suis en train de t'engueuler peut-être un peu, mais c'est par amour pour que tu te réveilles, que tu te secoues et que tu dises « Mais mon Dieu, pardon !» Voilà pourquoi je parle fort. Construis ta vie avec de l'amour. Est-ce que tu construis ta vie avec de l'amour? Alors, si tu construis ta vie avec de l'amour, eh ben, tu la construis avec de l'or, c'est symbolique. Avec un matériau très noble, l'amour. Est-ce que tu construis avec de la méchanceté? Avec des accusations, avec des jugements, avec des condamnations? Alors tu es en train de construire avec du bois ou avec du chaume, pour ne pas dire avec de la merde. Et voilà pourquoi tu as une vie de merde. Après tu dis c'est le diable qui m'attaque, c'est pas le diable qui t'attaque, il sait même pas que t'existes. T'es tellement nul, il sait même pas que t'existes. Il a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de toi, pauvre nouille. Il a même pas besoin de s'occuper de toi. Tu détruis ta propre vie toi-même par ta bêtise et ta méchanceté. Il y a des croyants comme ça. Ils croient. Et ils ont une vie qui pue. Qui pue les excréments de chat. Ça pue, hein. Ils sont toujours en train de juger et de condamner et de critiquer. Et peut-être vous allez dire, mais là, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Non, en ce moment, je suis en train de prêcher l'évangile. Je suis en train de dire, attention, tu es sur un faux chemin. Alors, je parle un peu fort pour que tu comprennes, mais je te critique pas. Je suis en train de te dire, tu as tort. C'est Jésus qui a raison et toi, tu as tort. Tu as mal compris Jean chapitre 15. Ok? C'est de l'amour. L'amour correctif, ça s'appelle. Alors ces gens-là, ben, ils ont un relationnel puant. Alors Dieu coupe la relation avec eux. Et comme je suis son fils, je fais la même chose. Tchac. Bon, qu'est-ce que je vais avoir à faire avec des gens comme ça? Je vais m'en kikiner, il me reste 10 ans à vivre à peine. Je vais pas m'embêter avec des casse-pieds, avec des jugeurs, avec des empêcheurs de tourner en rond. Ça y est, j'ai donné, hein, on en a eu, ça y est, c'est fini, j'en veux plus. Je trie aussi, comme Jésus qu'avec la pêche, quand ils ont tiré les filets, ben ils ont pris les gros poissons, ils ont les petits machins, on les a foutus à la, les ressorts de matelas, les vieilles godasses, allez hop, on les fout à la mer. Jésus aussi il trie. Ils ont un relationnel puant, Dieu les coupe et moi aussi, j'ai pas envie de vivre avec eux parce que je ne suis pas maso. Je n'éprouve aucune joie de vivre avec des casse-pieds, avec des gens qui n'ont que la condamnation dans la bouche, sans arrêt. Eh non, mais imaginez un peu, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas. L'autre jour, on a reçu des gens qui avaient des dettes, 4 000 € de dettes, parce qu'ils n'avaient pas payé leur loyer. Et la communauté, eh bien, on a pourvu, en partie, parce qu'on ne pouvait pas payer tout, on a payé une partie. Ils sont rentrés chez eux, sans dire au revoir le matin de bonne heure. Et puis, arrivés chez eux, ils m'ont écrit déjà 2-3 fois des lettres épouvantables, d'insultes et tout. Me reprochant par exemple que c'est ma femme qui fait la bouffe et que moi je ne l'aide pas. Mais je ne voulais pas aller aider ma femme à faire la bouffe alors que j'avais des invités qui avaient des problèmes. Et c'était eux les invités qui avaient des problèmes et je m'occupais d'eux toute la journée. J'ai même été les promener dans la région pour leur faire voir comme c'est beau. Et ils me font le reproche que je suis un gros macho et qu'il n'aide pas sa femme à faire la cuisine. Non mais ça va pas la tête. En tout cas, si vous avez encore des problèmes d'argent, c'est pas vers moi qu'il faudra venir vous deux là. Hein. Vous avez compris? Vous m'avez trompé. Je me suis fait avoir parce que je suis trop gentil. Mais c'est fini, coupé. Hein, Dieu il coupe. La relation est coupée. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Ça veut dire que vous avez du fruit d'amertume, de méchanceté, et surtout de bêtise. Et Paul continue, il dit, l'œuvre de chacun sera manifeste. Un jour, tout ça, ça sera devant Dieu. Tout ça, ça sera devant Dieu. Et tes œuvres, elles vont passer par le feu. Son jugement, en vue d'une récompense ou d'un châtiment. Vous vous rappelez ma prédication dernière où je disais qu'il y en a, quand ils vont arriver là-haut, ils seront sauvés, mais d'abord il faudra qu'ils payent jusqu'au dernier cadran et qu'ils recevront certains beaucoup de coups et d'autres très peu de coups. Ça dépendra de ce qu'ils auront reçu, ce qu'ils auront fait. Et que restera-t-il de tout ce que tu as fait dans ta pauvre et misérable vie? Qu'est-ce qui va rester une fois que ça aura passé par le feu? Si tu ne portes pas d'œuvres nobles, tes œuvres seront consumées et toi, tu iras en enfer? Non, tu iras pas en enfer. Relisons encore ce qu'il dit, 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas rentrer au paradis tout nu les mains dans les poches, c'est-à-dire sans rien. Ce que Paul enseignait là est à mettre en relation avec ce que Jésus dit dans la parabole du cep et des sarments. Tu seras jeté dans le feu du jugement de tes œuvres, des fruits que tu auras portés ou non sur terre, et s'il ne reste rien après ce feu, tu seras sauvé. Parce qu'on est sauvé par grâce et non pas par les œuvres. Tu seras sauvé, mais comme au travers du feu. Tu sentiras le cramer en rentrant au paradis. Tu entreras dans la vie éternelle, offerte gratuitement par ton Père en Jésus-Christ sur la croix, mais tu n'auras aucune récompense, rien. Comme on dit, nakash, c'est ça? La honte! La honte que tu vas te payer dans le paradis. Bon, on sera tous remplis d'amour, on s'en foutra, mais bon, n'empêche que, hein. Voilà. Moi, j'aurais drôlement honte si j'arrive devant Dieu avec rien du tout, qui me dise tout ce que tu as fait, c'était de la gnognotte. Quelle horreur. Mais bon, tu n'iras pas en enfer, c'est déjà pas mal, hein. Ta gloire ressemblera à celle des étoiles, selon 1 Corinthiens 15, 40, 42. Je vais le lire aussi. 1 Corinthiens 15, 40, 42. Je vous l'ai dit. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, c'est-à-dire que quand tu vas ressusciter, tu seras brillant comme le soleil, c'est-à-dire que tu seras l'épouse de Christ, qui est le soleil de justice, ou alors tu seras avec une gloire moindre, parce qu'il n'y aura pas eu beaucoup d'œuvres qui auront passé dans le feu, il y en a pas mal qui auront cramé, donc tu brilleras comme la lune, ou alors tu brilleras comme les étoiles. Trois niveaux de gloire, c'est ça, déjà, c'est bien, tu ne seras pas en enfer, c'est super. Mais n'oublie pas ça, ne mélange pas tout, comme le font les bricoleurs de Dieu, ceux qui pensent qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit, et qui ne sont inspirés que par la chair et par leur intellect, qui est déjà un peu défectueux, de par un héritage familial désastreux. Il parle du salut parfait en Jésus, puis tout de suite après, des œuvres qu'on doit faire pour mériter le salut. Mais c'est un dérèglement, ils sont déréglés. Ce sont des imposteurs, ce sont des faux prophètes dans le sens de faux paroles, faux porte-paroles de Dieu. Ces gens-là, tu ne dois pas les suivre. Avez-vous fait ce qu'il faut faire pour être sauvé? C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Le Saint-Esprit vous a-t-il convaincu de votre état de péché? Si oui, si vous vous êtes repenti d'avoir cru que vous pouviez être sauvé autrement que par Jésus, c'est une bonne chose. Si vous avez été baptisé à cause du pardon de vos péchés, le baptême d'eau ne sauve pas, mais c'est à cause du pardon de nos péchés que nous nous faisons baptiser, Actes 2, 38, eh bien, si vous êtes baptisé de cette manière-là, c'est bon pour vous. Si oui, vous avez rempli les conditions pour être sauvé, parce que Jésus l'a dit lui-même, juste avant de partir, dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Avec ou sans les œuvres. Et maintenant que vous êtes sauvés de l'enfer, restez attachés au cep. Laissez la vie du cep passer en vous. le Saint-Esprit, la vie. Laissez le Saint-Esprit passer en vous et porter du fruit digne de votre repentance. Ça, c'est le message de la Bible. Porter de bons fruits, c'est ce que signifie la parabole de Jean 15, la parabole du cep et du serment. Il faut que vous portiez du bon fruit, ça glorifie Dieu. Et quand vous portez du bon fruit, Dieu vous émonte pour vous en porter encore davantage. Et puis ensuite, il exauce vos prières et il est en bonne relation avec vous. C'est pas ça que vous voulez? Ne soyez pas abattu si vous n'avez pas fait beaucoup de bonnes œuvres jusqu'à aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors par exemple, toi qui m'as insulté là, écris-moi, dis Michel, pardon, et je t'enverrai une lettre, je te pardonne, pas de problème entre nous. Réconcilie-toi avec ceux que tu détestes, avec ceux que vous haïssez. Réconciliez-vous, faites du bien autour de vous. Faites ce que Jésus commande de faire, mais ça vous fera pas aller au paradis. C'est simplement, vous aurez des récompenses si vous le faites. Et vous aurez sur la terre une bonne relation avec Dieu. Ce qui est merveilleux. Qui veut pas ça? Moi, je veux ça. Vous faites des bonnes œuvres non pour avoir la vie éternelle, mais parce que vous avez la vie éternelle et que ça vous plaît, parce que vous aimez Dieu, alors vous obéissez. C'est tout. Voilà. Voilà. Pour aujourd'hui, j'arrête et on reprendra ça vendredi avec une autre parole que tous ces faux prophètes adorent pour pouvoir vous envoyer en enfer. Ils iront eux en enfer. Parce qu'ils veulent être jugés par la loi. Eh ben, Dieu va les juger par la loi. Et comme la loi, c'est impossible à suivre, et qu'il n'y a pas un seul juste d'après la loi, eh ben, s'ils sont jugés par la loi, ben, ils iront en enfer. Moi, je ne serai pas jugé. Ah bon, Michel, quel orgueil. Non, je ne serai pas jugé. J'ai déjà été jugé en Jésus-Christ à la croix. J'ai déjà été condamné en Jésus-Christ à la croix. C'est fait. Et je suis sauvé. Tu crois pas que je suis sauvé? Ça m'est égal. Moi, je sais quelle est ma relation avec mon Dieu. Et je suis heureux avec mon Dieu. Maintenant, est-ce que tu es heureux? C'est ça la question. Est-ce que tu es heureux avec ton Dieu? Est-ce que tu es heureux avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu vis dans la paix, dans la joie? Est-ce que tu es content de ta vie avec le Seigneur? Voilà, c'est tout. Moi, j'étais très gravement malade, mais je n'ai pas perdu ma joie. Hein. Vous voyez, en toutes circonstances, favorable ou non, on est des témoins. On témoigne de l'amour de Jésus-Christ qui nous a sauvés à la croix sans avoir besoin des œuvres. Enfin, j'arrête parce que sinon je vais me répéter et ça va commencer à être long. Que Dieu vous bénisse. Et si j'ai parlé un peu fort, c'est pas parce que je suis énervé, c'est parce que je veux que ça rentre dans votre tête. Vous savez ce qu'il disait Raphaël? Moi, je vous enseigne pour que ça rentre dans votre tête et maintenant c'est à vous de prendre votre Bible, donner un bon coup sur votre tête pour que ça descende 30 cm plus bas dans votre cœur. Je vais terminer avec cette parole de Raphaël. Dieu vous bénisse. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir.